Alors bien sûr, aujourd'hui, puisque nous célébrons la Pâque, c'est un peu comme ces dimanches hein, de Noël, etc. On sait que on va parler de ces thèmes de Noël, de la résurrection. Et ce matin, donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et nous lirons les 11 premiers versets de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Alors c'est vrai que si on posait la question aujourd'hui, même à nos voisins, peut-être même à certains membres de famille, en leur demandant, qu'est-ce que Pâques pour vous? Qu'est-ce que ça représente Pâques pour vous? Et je sais que beaucoup de gens aujourd'hui vont probablement dire, bon, pas grand-chose. Hein, c'est une fête. On a un jour férié le lendemain. On va pouvoir dormir tard. On va pouvoir se reposer. Certains vont aller chercher des œufs dans le jardin, dans le chocolat, chercher des lapins de Pâques, etc. Et beaucoup hein, le feront par tradition. C'est ce qu'on a toujours fait. Certains vont dire, oui, bah, c'est une fête religieuse, hein, c'est important, hein, c'est la résurrection du Christ. Mais avec ça, ils associent surtout l'idée que ben, c'est une fête qui permet de nouveau d'être en famille, hein, de se retrouver, de partager un bon repas, etc. D'autres hein, vont peut-être parler, ben, oui, c'est associé avec l'idée de renouveau, hein, le printemps, dans la nature, etc. D'autres, hein, tous ceux qui ont préparé tous ces chocolats que beaucoup vont manger aujourd'hui hein, sont conscients aussi du chiffre d'affaires qu'ils vont faire pendant cette semaine de Pâques hein, en vendant toutes sortes de bonnes choses hein, que les gens vont acheter et manger. Mais Pâques, c'est bien plus que cela. Et lorsque Paul a écrit cette première lettre aux Corinthiens, il avait certes l'objectif de corriger pas mal de choses parmi les chrétiens de cette église, beaucoup de problèmes spirituels, beaucoup de péchés qui n'avaient pas été confessés ni réglés, beaucoup d'immoralité, mais il y avait aussi plusieurs problèmes doctrinaux. Et l'un de ces problèmes doctrinaux, justement, concernait celui de la résurrection. Certains, aussi surprenant que cela puisse être, remettaient en cause la réalité même de la résurrection. Or, nous le savons, et comme Paul le rappelle ici dans cette épître, la résurrection de Jésus-Christ constitue le pilier, la puissance hein, de la foi chrétienne. C'est la puissance même de l'évangile. C'est ce qui distingue le christianisme eh bien, de tout système de pensée, de philosophie, de religion que les êtres humains ont pu inventer. Le point central, c'est Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et donc tout le chapitre 15 de cette épître de Paul aux Corinthiens aborde en long et en large cette doctrine de la résurrection, doctrine liée à la personne de Christ. Il est bel et bien ressuscité des morts. Et je crois que pour nous, il y a aussi ce rappel de ne pas négliger ce que Pâques représente. Ce rappel aussi de ce que Pâques doit être pour nous chrétiens. C'est une proclamation. Une proclamation de foi, c'est la commémoration, certes, du sacrifice de Christ, de sa victoire sur la mort, la célébration de la vie, n'est-ce pas, qui nous a accordé par sa grâce. Mais c'est un moment aussi pour nous, donc, de proclamer cette réalité. C'est ce que un peu Paul, hein, il rappelle justement, hein, vers le dernier verset que nous avons lu, le verset 11, hein, que soit moi, que soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Et je crois que nous pouvons y voir aussi un rappel et un appel pour chacun d'entre nous de ne pas négliger cette réalité de la résurrection et de la prêcher. Hein, je crois qu'il y a, c'est vrai, beaucoup de gens qui vont dire, ressusciter, ça, c'est pas possible. Hein, c'est scientifiquement impossible. Et ça me fait toujours un peu sourire cet argument de scientifiquement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que scientifiquement, eh bien, il y a des chercheurs qui cherchent à prolonger la vie. Il y a des chercheurs qui essaient de faire en sorte que la mort n'existe plus. Des scientifiques. Okay? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire quand même que, ben, à travers le monde, tous les êtres humains reconnaissent que, ben, ils veulent pouvoir vivre. La plupart d'entre eux veulent vivre le plus longtemps possible. Et Pâques, eh bien, en Jésus-Christ, nous rappelle cette réalité. Cette réalité que la vie éternelle existe. C'est ce que Christ est venu apporter en venant dans le monde. Et donc, continuons de prêcher ce message de Pâques, cette réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Et j'aimerais donc souligner plusieurs choses par rapport au texte que nous avons lu ce matin. Mais d'abord, retenons surtout la raison même de la Pâques. Au verset 3, Paul y rappelle à ses Corinthiens qu'il les avait enseignés à ce sujet. Hein, une réalité que les Corinthiens avaient acceptée, ils avaient cru, hein, ils avaient reçu, celle que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et donc Paul ici, il rappelle cette doctrine de la résurrection qui constitue le point de départ de notre vie chrétienne. Christ est mort pour nous. Voilà bien la raison de la Pâque. Et la mort de Christ n'avait rien d'imprévu. Hein, certains vont voir la vie de Jésus et se dire, ah, c'est quand même bien dommage qu'il soit mort. Hein, il y a beaucoup de personnes, de célébrités qui meurent à un jeune âge et beaucoup de gens vont dire, ah, il est parti trop tôt. Hein, c'est pas juste. Hein, il avait encore beaucoup de choses à faire, à accomplir. Certains regardent à la mort de Jésus-Christ comme bah, une erreur de parcours, ça n'aurait pas dû se produire. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, parce que comme ici, Paul le rappelle dans ce verset 3, c'est que tout ceci s'est produit selon les Écritures. Et plusieurs fois dans ce passage, Paul, il emploie ce terme, selon les Écritures, pour montrer quoi? Que c'est quelque chose qui était prévu. Ce n'était pas un accident. C'était quelque chose de prévu. La mort de Jésus-Christ s'inscrit parfaitement dans le plan que Dieu a pour l'humanité. Nous avons, et on a déjà eu l'occasion de regarder ça en long et en large, ensemble, mais les multiples prophéties concernant le Messie qui attestent de cela. La plupart des historiens aujourd'hui admettent que Jésus a réellement existé. Il y a 2000 ans, sa présence en Israël a laissé une empreinte incontestable dans, pas simplement la société en Israël, mais partout à travers le monde. Son influence, sa vie morale parfaite, ainsi que tous les enseignements qu'il a apportés, bien, ils sont connus et reconnus à travers le monde. Et je trouve toujours ça assez remarquable, c'est que beaucoup des autres religions cherchent quelque part à toujours s'approprier quelque chose de la part de Jésus. Alors, par exemple, l'islam va dire oui, c'est un prophète, et puis ils essaient de s'accaparer Jésus. Et d'autres religions ou d'autres pensées, philosophies, hein, voient la sagesse de Jésus, et puis ils essayent d'incorporer ça dans leurs croyances. Mais il y a certaines personnes qui font également preuve de réticence à reconnaître que Jésus est réellement venu dans ce monde, il a vécu comme un homme, mais qu'il est également Dieu. Beaucoup rejettent la nature divine de Christ. Ils vont le limiter simplement à être un être humain, un rempli de sagesse, un humanitaire qui a fait beaucoup de bien autour de lui. Et beaucoup négligent de regarder réellement à qui est Jésus-Christ, à savoir comme les évangiles nous le proclament et comment les épîtres également nous le présentent. Il est le Fils de Dieu venu dans le monde pour sauver les hommes de leurs péchés. Et en faisant cela, Christ, oui, a accompli une liste impressionnante de prophéties à son sujet. C'est, je crois, une des chose remarquable par rapport au christianisme, quand les gens disent « donnez-nous des preuves, donnez-nous des preuves », je crois. Et c'est Blaise Pascal, hein, le philosophe français du XVIIe, qui était aussi théologien, il a écrit beaucoup de choses au sujet de Jésus-Christ, et qui disait que la plus grande épreuve de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. Parce que pour lui, il voyait que des siècles auparavant, il y a eu ces prophéties qui ont été accomplis par Jésus-Christ, et pour lui, il voyait que Jésus-Christ était bien plus qu'un homme, bien plus que ce que les autres peuvent penser de lui. Et parmi tous les arguments possibles qui, justement, soutiennent la divinité de Jésus-Christ, n'est-il pas particulièrement convaincant de considérer combien les prophéties se sont avérées exactes concernant sa naissance, concernant sa vie, concernant son ministère et même concernant sa mort. Historiquement, il est établi que les prophéties messianiques, elles sont au moins antérieures à Jésus-Christ de au moins 150 ans. Et un grand nombre d'entre elles remontent à 1000 ans avant sa venue. Et des quelques 60 prédictions majeures concernant le Messie et que Jésus a accompli, il y en a certaines qui sont troublantes. Certaines qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder ces passages et de penser à Jésus-Christ. Les prophéties d'Ésaïe, qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, ou même les écrits de David, le roi David, qui a vécu vers 1058 à peu près, qui avait justement parlé de la mort du Messie. Les deux avaient décrit ce que le Messie allait subir. David, dans le psaume 22, il parle du fait qu'il aurait les mains percées et les pieds. Le fait qu'il ait dit juste après, je pourrais compter tous mes os. Rappelez qu'au moment de la crucifixion, l'habitude des Romains pour faire en sorte que la mort s'accélère, c'était de briser les jambes pour que cela provoque l'asphyxie du condamné et qu'il meure plus rapidement. Or, Jésus était mort bien avant, ce qui avait même a suscité l'étonnement de plusieurs, mais aucun de ses os n'avait été brisé. Le fait que le verset 19 du psaume 22 parle de ce que il se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique, qu'ont fait les soldats romains à la croix, si ce n'est de faire exactement cela. Quand on considère le passage d'Ésaïe 53, qui nous décrit ce que le Messie allait subir, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. C'est ce qui s'est produit il y a 2000 ans à Jérusalem, lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté et que la foule criait « Crucifie-le, crucifie-le ». On pourrait prendre le temps, effectivement, de regarder à plusieurs de ces prophéties et de montrer pourquoi nous croyons que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Ce même chapitre 53 d'Ésaïe parle du fait qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. C'est ce qui s'est produit pour Jésus-Christ également. Mais même en regardant ces prophéties, on peut regarder aux paroles même de Christ. Christ lui-même avait prophétisé sur sa mort et sa résurrection. À plusieurs reprises, il avait averti ses disciples et cherché à les encourager. Il leur avait dit qu'il allait être livré entre les mains des hommes. Il leur avait dit qu'il devait souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort. Et notez bien ce qu'il a dit en Matthieu 16, 21, qu'il ressuscite le troisième jour. Ce sont les paroles de Christ. On ne peut pas, en toute bonne conscience et en toute logique, dire que sa mort, c'était un accident. Ça ne devait pas arriver. Lorsque Christ lui-même avait dit à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem, je vais souffrir, je vais être mis à mort, mais je vais ressusciter. Mais cette mort, elle n'a pas été forcée. Hein, je sais que certains vont penser que oui, ce sont les Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus. Non. D'autres vont dire, ouais, c'est les Romains qui l'ont crucifié. Alors, techniquement, ces choses sont vraies, mais la mort de Christ n'a pas été forcée par qui que ce soit. Elle était volontaire. C'est ce que le Seigneur lui-même a dit dans Jean chapitre 10, au verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Afin de quoi? De la reprendre. Comment est-ce qu'il aurait pu accomplir cela? Il était encore en train de parler de sa résurrection. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Comprenez bien que Christ, oui, il a choisi. Il a choisi de sacrifier sa vie. Même si il est exact que les chefs religieux ont comploté pour le tuer, sa mort n'était pas surprenante. Même si les chefs religieux avaient déjà tenté de prendre la vie de Jésus-Christ, nous comprenons que les choses se sont déroulées exactement comme Christ l'avait prédit. Jean chapitre 7, il cherchait à se saisir de lui pour le mettre à mort. Mais personne, ici nous dit le verset, personne ne mit la main sur lui. Pourquoi? Et il donne la raison. Parce que son heure n'était pas encore venue. Le plan de Dieu s'est déroulé comme il l'avait prévu. Plus loin, même au chapitre 8, on retrouve les paroles de Jésus, où il est dans le temple, en train d'enseigner, et là encore, personne ne put mettre la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais voilà. Au moment précis de la Pâque, célébration juive, remontant à la sortie d'Égypte, la libération du peuple d'Israël, où là, nous avons les premiers éléments, les premiers indicateurs qui nous montrent ce que c'est que la Pâque, c'est-à-dire la libération de l'esclavage, la libération du péché, de cette emprise spirituelle du mal sur l'humanité. C'est ce que cette Pâque-là représentait, avec la notion qu'il fallait qu'un agneau soit sacrifié, il fallait qu'il y ait le sang qui coule sur le bois pour que la vie soit préservée. C'était déterminé par Dieu de toute éternité. Cette mort, elle était nécessaire pour nous tous. Comprenons bien ceci, que lorsque l'homme et la femme, Adam et Ève, eh bien, on désobéit à l'unique commandement que Dieu leur avait donné. Ils ont plongé l'humanité, oui, dans la condamnation et la malédiction du péché. Que, à ce moment-là, la mort spirituelle a frappé l'humanité. Et c'est pour cela que, comme Paul nous le rappelle, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et donc, comprenons bien que cette nécessité de la mort de Christ, c'était pour chacun d'entre nous. Parce qu'il n'y a aucun moyen par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est par Jésus-Christ. Aucun autre nom qui a cette puissance de pouvoir, eh bien, donner la victoire sur la conséquence du péché, la mort physique et la mort spirituelle. Paul le rappelle dans Éphésiens 2, chapitres 8 à 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi? Pourquoi il fallait que ce soit Christ? Pourquoi il fallait que ce soit lui qui meure sur la croix? Parce qu'il est l'unique être parfait. » La mort de Christ était nécessaire pour nous, pour que nous puissions être eh bien oui, réconcilié avec Dieu, que nous puissions être pardonnés, rachetés, et que la condamnation du péché soit ôtée de notre vie. La mort de Christ constitue donc ainsi la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. On l'a vu avec les prophéties, Dieu a donné aux hommes la preuve irréfutable de ses promesses qui s'accomplissent, de la divinité de Christ. et de nous aider à comprendre que Jésus, il est bel et bien celui qu'il a proclamé être. Mais par la crucifixion, Dieu, il a également donné le gage de son amour. C'est ainsi que Dieu a prouvé son amour pour nous. Ce n'est plus une simple question de raison ici. C'est une question de cœur. Christ est mort pour nous parce qu'il nous aime. Alors bien sûr, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il fallait qu'il meure, pourquoi il fallait qu'il ressuscite. Et c'est ce que Paul il essaie de rappeler à ses Corinthiens, parce que beaucoup mettaient en question la réalité de cette résurrection, et Paul leur rappelle que mais sans la résurrection, la foi, notre foi, elle est vaine. Il n'y a aucune raison de continuer à croire et de suivre Jésus-Christ si la résurrection n'était pas réelle. Pourquoi? Parce que c'est cette résurrection qui nous donne la preuve ultime de qui est Jésus-Christ et l'assurance ultime que ce qu'il nous a promis par sa mort et sa résurrection, nous l'avons obtenu. Mais pensons un petit peu à cet amour que Dieu a manifesté. Pensons même à nous-mêmes. J'ai posé un peu la question à mes enfants l'autre soir. Quelle est la plus grande chose que vous ayez fait par amour pour quelqu'un? Alors bien sûr, nous parents, on pense tout de suite, oui, quand il fallait changer les couches, ça c'était vraiment une grande preuve d'amour. Mais pensez-y, quelle est la plus grande chose que vous ayez fait par amour pour quelqu'un? Ou même de vous poser la question, quelle est la plus grande chose que quelqu'un ait fait pour vous par amour? L'amour, certes, amène l'être humain à accomplir de grandes, de belles, de nobles actions. Mais y a-t-il eu un moment où quelqu'un a fait quelque chose pour vous alors que vous ne le méritiez pas, parce qu'il vous aime? Ou y a-t-il eu un moment où vous-même, vous ayez accompli quelque chose par amour pour quelqu'un qui ne vous aime pas? Il est facile d'aimer celui ou celle qui est aimable. Par contre, nous le savons tous par expérience qu'il est extrêmement difficile et pour beaucoup souvent impossible d'aimer ce qui à nos yeux ne mérite pas un tel sentiment. C'est ce que nous étions tous aux yeux de Dieu. Autrefois ennemis, enfants de colère. Et pourtant Dieu nous a aimés au point de sacrifier son Fils Jésus-Christ. Notre amour, certes, a des limites, mais l'amour de Dieu surpasse tout, il transcende tout, il n'a pas de limites, il aime. Pourquoi? Parce que c'est son essence, c'est-à-dire c'est qui il est, c'est quelque chose qui ne changera jamais. Dieu est amour. Et son amour, il est parfait parce que Dieu est saint et il est parfait en toutes choses. Et il est fidèle à lui-même. Il nous aime non pas parce que nous méritons quoi que ce soit de cet amour. Il nous aime malgré la noirceur même de notre cœur, malgré l'ampleur de notre rébellion envers lui. Dieu nous aime d'un amour parfait parce que cet amour dépend de lui et non pas de nous-mêmes. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre cela. Comment Dieu, et j'aime toujours cela, c'est toujours par rapport à d'autres qui font pire que nous. Comment Dieu pourrait aimer une telle personne? Comment Dieu peut-il aimer un meurtrier? Comment Dieu peut-il aimer un tel criminel? Quelqu'un qui a mis des millions de personnes à mort? Comment peut-il aimer une telle personne? Parce que Dieu est amour. C'est sa nature. Et Dieu aussi, il sait que si les êtres humains agissent ainsi, certes, ils ont fait le choix, mais c'est parce qu'ils ont cette nature pécheresse qui est liée à eux. C'est parce que dans un certain sens, oui, nous sommes la victime du péché, nous sommes la victime de l'adversaire. Et Dieu sait cela. Il sait cela. Il sait que c'est à cause de cette nature pécheresse que nous avons agi ainsi. Mais nous sommes responsables d'avoir fait le choix du péché dans notre vie. Donc autant Dieu nous aime, autant Dieu est juste, et il ne peut pas laisser certes ce péché impuni, nous le comprenons bien, mais par amour pour nous, il a tout accompli pour que nous puissions connaître la grâce, une grâce éternelle. lorsque Christ a déclaré sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Le mot grec qui est employé ici, c'est un terme d'affaires. C'est-à-dire que c'était un mot qui était employé pour dire que toute la dette a été payée, il n'y a plus rien, c'est bon, tout est réglé, on ne peut plus rien revenir en arrière, tout est bon. Hein, c'est comme sur les factures, hein, on a la facture, c'est marqué réglé. Hein, tout a été payé, c'est bon, il ne reste plus rien. C'est ce que Christ a accompli. C'est-à-dire que sur la croix, son sacrifice est suffisant eh bien, pour ôter le péché de tous les êtres humains ayant vécu. Il est suffisant pour cela. Et on le sait, ce ne sont pas tous les êtres vivants qui ont saisi cette grâce-là. Mais tout a été accompli. Comment Christ aime une personne aussi détestable qu'un criminel, ce n'est pas la question qu'il faut se poser. La question qu'il nous faut nous poser, c'est comment Christ nous aime, nous qui avons été rebelles en tellement de choses, nous qui avons commis des péchés tellement de fois que même en essai de se rappeler de tous les péchés que nous avons commis, on ne sait plus tellement nous avons péché. Dieu nous aime d'un amour parfait, parce qu'il est amour. Et je crois que de toutes les personnes qui ont servi Christ, et ici dans les Écritures, Paul était probablement celui qui était le plus conscient de cette vérité-là. Il le dit lui-même. Au verset 9, regardez, « Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi ? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Paul était conscient de l'immensité, de l'amour de Dieu pour lui et de la grâce reçue en Jésus-Christ. Christ est mort pour nous par amour. C'est ce que Paul il va également rappeler dans son épître aux Romains, que Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. On vient de voir, oui, la raison, hein, la motivation hein, de l'impact, de pourquoi nous devons proclamer ce message autour de nous. Mais nous devons aussi partager la puissance de la Pâque, à savoir la résurrection de Christ. La mort de Christ, elle était bien réelle. Hein. Nombreux sont ceux qui ont cherché à présenter toutes sortes d'arguments hein, pour dire que Jésus-Christ n'était pas vraiment mort. Non, il est bel et bien mort. Sa mort, nous l'avons vue, elle était prévue, elle était nécessaire, elle était la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Et il fallait que son sang coule sur la croix pour que nous puissions avoir en lui et par lui le pardon de nos péchés, que nous obtenions la réconciliation avec Dieu. Car comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon. Et donc si Christ n'était pas mort sur la croix, il n'y aurait aucune réconciliation possible. Donc sa mort était bien réelle. Aucun des arguments avancés hein, pour dire qu'il n'était pas mort ne peut venir contrer ce fait. Christ est mort. Hein, le fait que ce soit des soldats aguerris, hein, qui pouvaient faire la différence entre une personne qui était morte et une personne inconsciente. Le fait que son côté a été percé pour vérifier qu'il était bien mort. Le fait que même au vu de la haine intense que les chefs religieux juifs avaient contre Christ, hein, de ceux qui avaient préparé, conspiré pour son arrestation, soudoyé des faux témoins pour l'accuser et le faire condamner, hein, qui avaient même pactisé avec les Romains pour le faire exécuter, ils auraient été les premiers à dire « Ah non, non, il n'est pas encore mort là, il n'est pas encore mort, assurez-vous qu'il soit bien mort » N'est-ce pas ? Sa mort était bien réelle. Personne ne peut contester cela. Et tout comme sa mort était bien réelle, sa résurrection a été également. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Christ avait déjà manifesté sa puissance à faire cela. Il est la vie. Il a ressuscité la fille de Jaïrus. La fille, le fils de la veuve d'Anaï, Lazare. Christ a la puissance sur la mort, sur le péché, sur toutes les conséquences du péché. Il n'est pas resté mort. Il n'est pas resté mort. Dans sa révélation à l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au premier chapitre, verset 18, lorsque Christ se présente, il dit « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Christ a la puissance, toute la puissance pour donner la vie et pour ressusciter. Et la résurrection de Christ est donc, oui, une puissance extraordinaire. C'est le pilier, hein, la puissance de notre foi. Parce que toutes les ramifications, hein, tout ce qui est rattaché à cette doctrine de la résurrection, c'est important. On ne peut pas négliger, hein, tout ce qui est lié au fait que Jésus soit bel et bien ressuscité des morts. Hein, le fait que, ça confirme les prophéties, ça confirme que la Bible est bien la parole de Dieu, ça confirme tout ce que Jésus a dit à son sujet. Il est le Fils de Dieu, hein, il avait la puissance, hein, de revenir à la vie, de ce qu'il est le seul chemin pour venir au Père, qu'il est le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il est le seul. Il est le seul à pouvoir nous sauver. Aucun autre chef religieux, aucun fondateur de religion ou de secte n'a pu accomplir ce que Christ a accompli. Cette vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ, hein, pour ceux qui ont placé leur foi en lui et en lui seul, hein, qui sont repentis de leurs péchés, Christ a fait déjà de nous de nouvelles créatures. C'est déjà quelque chose d'accompli qui va s'achever, hein, où on va voir l'état final de ce salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Mais il n'y a aucune raison pour nous de douter de cette réalité-là. Car si nous doutons de la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, à quoi ça sert d'être chrétien? Je crois que nous devenons comme beaucoup de pseudo-chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire « Ah, j'apprécie ce principe, aimer son prochain. Ah, j'apprécie ce principe, hein, de générosité envers les pauvres, les affamés, etc. Ah, c'est de belles pensées, c'est des choses que j'ai envie de suivre pour ma vie. » Beaucoup de gens suivent cela, suivent une philosophie plus que la vérité de qui est Jésus-Christ. Mais si quelqu'un était en Christ, nous sommes déjà une nouvelle création. Et comme Paul le rappelle, même dans ce chapitre, un peu plus loin, les versets 54 à 57, hein, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Christ, c'est ce qui nous donne aujourd'hui l'assurance, qui nous donne la victoire, qui nous donne, eh bien, cette espérance d'un jour de pouvoir le revoir, mais aussi que ce corps mortel que nous avons aujourd'hui sera transformé. Il n'y aura plus les conséquences du péché. Il n'y aura plus aucun péché. Et voilà donc la puissance de la résurrection de Christ. Jésus n'est pas simplement revenu à la vie, mais tout ce qui est attaché à cette réalité-là, concernant notre salut, concernant notre destinée, c'est trop important pour négliger la puissance de cette résurrection. Mais voilà, tout comme Paul le rappelle tout au long de ce chapitre, hein, sans la résurrection, la foi chrétienne, elle devient vaine, vide de sens. Et ne pensez pas un seul instant que la foi en Jésus-Christ soit quelque chose d'insensé, d'illogique. Elle est fondée sur des preuves. On a déjà parlé, hein, des prophéties, mais laissez-moi juste parler de ces quelques preuves, hein, concernant la Pâque. La résurrection de Jésus-Christ, cette résurrection corporelle, constituera toujours cette preuve par excellence de l'authenticité du christianisme. La résurrection de Christ prouve tout ce que la Bible dit. Tout le reste, tout ce qui a été dit et fait par Jésus ou les apôtres, ça demeure presque secondaire en importance par rapport à la résurrection. Si la résurrection de Christ ne s'était pas produite, le christianisme, oui, ça appartiendrait à toute cette liste de religions humaines qui ont captivé les esprits depuis l'aube des temps. Mais voilà, la résurrection a bel et bien eu lieu. Le Christ, il est Dieu. Et nul ne peut légitimement douter de l'authenticité de la foi chrétienne biblique quand on contemple toutes les preuves qui nous sont présentées à travers les Écritures. Il y a assez de preuves pour convaincre qui que ce soit. À partir du moment où une personne va venir sans a priori et arrière-pensée, sans se dire « non, moi je ne vais pas y croire, tu peux me présenter tes preuves, mais je ne vais pas y croire », mais toute personne qui vient avec, en toute humilité, regarder à ce qui est présenté, il y a cette preuve pour la convaincre. Beaucoup de personnes à travers les siècles ont cherché à démontrer que le christianisme était faux, que la résurrection ne s'est jamais produite. Beaucoup de ces personnes-là ont fini par être convaincus eux-mêmes par la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup d'ouvrages de personnes qui ont écrit à ce sujet, comme Lee Strobel et d'autres. Mais voilà, un tombeau qui était vide, malgré le fait qu'elle soit gardée par des soldats romains. Le fait que, comme Paul le présente ici dans ce passage, cette longue liste de témoins qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Le fait que les disciples étaient apeurés, qu'ils étaient cachés. Le fait que ces personnes étaient dans la crainte, dans la peur qu'ils soient les prochains à être crucifiés. On les voit mal affronter cette garde romaine pour subtiliser le corps de Christ et faire croire qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Par contre, ce qui a changé avec ses disciples apeurés, c'est que quand ils ont vu de leurs propres yeux le Christ ressuscité, leur témoignage concernant cela n'a jamais changé. Tout au long de leur vie, jusque même à subir la mort par rapport à leur foi, ils ont toujours soutenu le fait que Christ est ressuscité. Le fait que ce soit des femmes même qui ont été les premiers témoins de la résurrection de Christ, c'est un détail que beaucoup de personnes négligent. Mais dans la société de cette époque-là, le témoignage des femmes n'avait pas autant de force, de conviction que celui d'un homme. Et que si les disciples de Jésus avaient cherché à comploter, conspirer et faire croire aux gens qu'il était vraiment ressuscité, ils n'auraient même pas pris le temps de noter dans leurs évangiles « les femmes étaient les premières à avoir vu Jésus-Christ ressuscité ». Pourquoi? Parce que s'ils cherchaient à convaincre les autres d'un potentiel mensonge, ils ne les auraient pas choisis, elles. Lorsqu'on comprend le rôle des femmes, selon le docteur Craig, un théologien, il dit « Lorsqu'on comprend le rôle des femmes dans la société juive du 1er siècle, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que cette histoire du tombeau vide présente des femmes comme les découvreuses du tombeau vide. Les femmes occupaient une place très basse dans la hiérarchie sociale en Israël au 1er siècle. » C'est-à-dire que le témoignage des femmes était considéré comme si insignifiant qu'elles n'étaient même pas autorisées à témoigner devant un tribunal juif. Voilà. Quand on prend le temps de regarder à toutes les preuves et de compiler tout cela ensemble, on comprend qu'il y a assez de preuves pour convaincre. Le fait que, même parmi les disciples, Thomas était sceptique par rapport à cette résurrection, qu'il avait dit « moi, je vais croire que ce que je vais voir ». Et qu'il a finalement pu voir Christ ressuscité, qu'ils ont pu toucher le Christ. Ils ont vu ses mains percées, ses pieds percés. Et Thomas qui s'écrit « mon Seigneur et mon Dieu ». Pourquoi? Parce qu'il a compris qui est Jésus-Christ, sa puissance sur la mort, et que sa résurrection était bel et bien réel. Les disciples ont partagé des repas avec lui pour montrer que Christ était bien ressuscité de manière corporelle. Ce n'était pas un esprit ou une hallucination ou quoi que ce soit. Mais parmi les grandes preuves qui existent, retenons aussi le témoignage de Saul de Tarse. Comment expliquer ce revirement dans la vie de quelqu'un qui était le plus acharné des ennemis du christianisme, celui qui opprimait, qui poursuivait, qui persécutait, qui mettait à mort les chrétiens, et qui change complètement, et devenir le plus grand défenseur du christianisme à son époque. Comment est-ce qu'on peut douter de ces choses-là? Quand on prend toutes ces preuves-là, et qu'on présente toutes ces choses-là, et que des personnes choisissent encore de dire « non, je ne crois pas », je crois que le problème n'est plus au niveau des preuves. En fait, leur choix, leur décision montre une réalité que la Bible enseigne bien. Nous sommes tous pécheurs. Et certains se complaisent dans leur péché. Certains ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, de se repentir, de changer leur vie. Ils n'en veulent pas. J'ai déjà eu l'occasion peut-être de partager ce témoignage-là de mon grand frère quand il était adolescent. Il avait un ami musulman à qui il témoignait. Et mon frère avait longtemps parlé avec lui, longtemps présenté les diverses preuves, etc. Et son ami lui a dit, écoute, je comprends, je vois, je sais qui est Jésus-Christ. J'ai compris tout ce que tu as présenté. Mais voilà. Mon père est musulman, mon grand-père était musulman, mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et moi, je serai musulman. Aussi incroyable que ça puisse paraître, même des personnes qui voient l'épreuve, qui comprennent qui est Jésus-Christ, choisissent encore de le rejeter. Si la résurrection n'avait jamais eu lieu, où en serions-nous? Avez-vous même déjà pensé à l'impact du christianisme dans l'histoire de l'humanité? Est-ce que cela a apporté? L'impact que ça a eu sur notre monde. Des vies transformées, d'hommes, de femmes, d'enfants à travers les siècles. Certains qui ont vécu une vie paisible, d'autres qui ont vécu sous l'oppression, qui sont morts, exécutés à cause de leur foi. Et au-delà des langues, au-delà des cultures, au-delà des pays, des milliers, des milliers, des milliers de personnes attestent de la puissance de l'Évangile, de la puissance de cette résurrection qui a changé leur vie. Même si beaucoup ont cherché, à travers différents arguments ou théories, pour tenter de réfuter la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a aucune preuve crédible qui permet de dire tout le contraire de cette réalité-là. Les preuves sont claires, elles sont convaincantes. Christ est ressuscité. Si nous devions prendre en considération tous les témoins qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, même dans un tribunal, on dirait, oui, il est ressuscité. Il y a tellement d'événements, même historiques, que nous avons connus dans le monde qui ont été sus seulement sur la base d'un témoignage d'une personne. Et on se dit, oui, ça c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé, parce que lui, il a témoigné de cela. Et quand on considère toutes les personnes qui ont vu Christ ressuscité et l'effet que ça a eu dans leur vie, comment encore douter? Mais la grande question aujourd'hui pour chacun, c'est quel impact est-ce que cette résurrection a eu pour votre vie? Cela a-t-il changé votre vie? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas s'assurer aujourd'hui d'être déjà réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ? D'être pardonné de vos péchés? Si ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vous, peut-être parce que votre vie chrétienne, vous êtes limité simplement à accepter la grâce de Christ et ne pas chercher à vivre Christ, au point où vous ne voyez pas la réalité de tout cela dans votre vie. Peut-être vivez-vous en conformité avec cette réalité de la résurrection de Christ. Peut-être vous le pensez, Mais est-ce que nous faisons tout notre possible pour partager ce message, pour vivre selon cette vérité? Est-ce que nous proclamons autour de nous ce qu'est vraiment Pâques? Rappelons-nous, Pâques, c'est la proclamation de la victoire de Christ sur le péché, sur la mort. C'est le pilier et la puissance de notre foi. Et si aujourd'hui nous sommes là pour célébrer cela et nous rappeler de ce que Christ a accompli pour nous, Christ il ne veut pas que nous employions cette grâce de manière égoïste, que nous gardions ce trésor pour nous-mêmes, mais il désire que nous puissions partager cela avec les personnes autour de nous. On a plusieurs pamphlets, tracts, traités, comme vous voulez l'appeler, qui sont à votre disposition, que vous pouvez prendre avec vous pour distribuer, donner à des amis, à des collègues, etc. N'hésitez pas. Il y en a sur les côtés, il y en a au fond là-bas. Tout est à votre disposition pour cela. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le demander. Mais je crois que, effectivement, aujourd'hui, c'est aussi un jour pour nous de remettre en question de notre participation dans l'œuvre que Christ a prévue pour son Église, de se demander avec sincérité, ben, où en suis-je? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Est-ce que je me contente simplement de bien profiter de sa grâce? Est-ce que je me contente d'être juste, voilà, assez bon pour paraître comme un bon chrétien? Ou suis-je engagé à laisser Christ transformer entièrement ma vie et que cela puisse se voir de manière réelle à travers nos choix, nos actions, nos paroles? Prions.